Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous invite à un dernier ravito avec Mathieu, hamster joufflu devenu hamster très rapide. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast où on parle de sport, de lifestyle sportif, de running, de mouvement, de comment on bouge, comment on retrouve la ligne, comment on retrouve aussi des projets, comment on change aussi parfois de vie et comment le sport prend une place tout à fait différente dans notre vie. Et aujourd'hui, mon invité donc est Mathieu. Mathieu, comme il nous l'a expliqué, a un parcours qui est vraiment assez incroyable hein, d'ailleurs quand on regarde un petit peu, de 115 kg à 78 kg en quelques mois, il a aussi accéléré et est devenu un coureur beaucoup plus rapide que moi, je dois le dire. Et en fait, ce qui est intéressant avec Mathieu, c'est que à l'opposé de moi, il se motive beaucoup avec tout ce qui est course virtuelle, challenge, défi, les challenges qu'il se lance à lui-même. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment il utilise ces sources-là de motivation, comment il utilise son mental pour progresser et pour progresser vraiment très vite. Alors, j'ai invité Mathieu à venir parler de ce sujet-là avec moi. On a discuté pendant une bonne heure 15 hein, environ, hein, ça vous fait une belle sortie longue, où on a discuté de comment il avait débuté la course à pied, de comment finalement il avait aussi fait des mauvaises expériences avec certaines chaussures, comment il était passé sur certaines chaussures, ses ressentis, comment il a couru jusqu'à un marathon seul hein, dans son coin en faisant un excellent temps, quelles étaient ses pratiques par exemple de courir un semi-marathon toutes les semaines, quels sont son défi du dimanche, voilà, petites choses comme ça, et quelles sont aussi ses envies hein, de coureur qui a une expérience très faible hein, dans la course à pied, environ un an, un peu plus d'un an, donc une expérience assez faible, mais qui ne l'empêche pas de rêver à des distances qui s'allongent, à des nouveaux défis, à des nouvelles choses. Et donc c'est vraiment très intéressant de voir comment Mathieu, lui, envisage la course à pied. Probablement pas tout à fait de la même manière que moi, hein, avec des défis un petit peu différents. On a aussi parlé de la course sur tapis à la fin. On a parlé aussi d'alimentation, de comment il s'était alimenté, de comment il s'était motivé par rapport à ses courses, etc., ses courses virtuelles, comment il a vécu aussi le confinement. Et c'est vraiment un épisode où on va voir une autre facette, hein, peut-être laquelle vous allez aussi vous reconnaître par certains aspects, ou alors peut-être vous direz, tiens, j'aurais bien envie de voir les mêmes sources de motivation que lui. Alors je le dis à la fin de l'épisode, et vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode, n'hésitez pas à poser des questions, notamment à Mathieu. Hein. Vous pouvez aller le voir sur Instagram, je mets le lien. Si vous avez des questions, notamment sur comment il s'entraîne, quels sont les conseils. Si vous retrouvez dans son parcours, vous pouvez venir discuter avec lui. Vous pouvez venir aussi discuter avec lui dans tout ce qui se monte à côté. Hein. Par exemple, le groupe Facebook, mais surtout le Hamsters Running Club, qui est la nouvelle communauté qu'on est en train de monter. Mathieu en fait partie, dans laquelle on discute de running. Alors, on n'a pas tous les mêmes niveaux, on n'a pas tous la même pratique, on n'a pas tous la même histoire. Mais en fait, on a tous ce lien un peu particulier avec le sport, avec le running, avec la course, avec l'envie de faire quelque chose. Alors on se lance chacun dans des défis particuliers, chacun des fois on peut même faire évoluer nos pratiques, hein. On a parlé notamment aussi avec Mathieu des courses, hein, est-ce qu'il avait trouvé des dossards, des choses comme ça, mais vraiment le but c'est de parler ensemble de courses, hein. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans la fin du dernier épisode sur ma vision de pourquoi je voulais lancer l'Hamsters Running Club, de pourquoi c'était important pour moi, de pourquoi c'est totalement différent aussi de ce qu'on peut trouver dans certains groupes, notamment sur Facebook où la discussion est parfois un petit peu violente et vraiment là je veux un espace avec beaucoup de bienveillance. Et donc vous pouvez venir, hein, les portes sont ouvertes, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode du Hamsters Running Club et où vous retrouverez déjà un petit bout de la bande et notamment Mathieu. Avant de vous laisser écouter l'épisode avec Mathieu, quand même, je dois vous dire mes deux petits trois trucs de passage de pub habituel. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast par Patreon. Faites patreon.com/km42. Vous pouvez donner à partir de 1 € par épisode, 1 $ par épisode, mais ça fait à peu près 1 €. pouvez soutenir le podcast. Moi, ce qui me permet tout simplement de financer ma nouvelle vie, hein, la vie que je suis en train de construire. Voilà, ça fait partie de mes rêves. Hein. Comment réaliser mon rêve, comment réaliser mes rêves d'enfant, d'être un sportif. Et bien, c'est aussi par ce biais-là. C'est aussi par le biais du Hamsters Running Club. Je vous remercie aussi pour les dédicaces que vous laissez, notamment sur Instagram. Alors, je vous rappelle le principe, hein, c'est que quand vous écoutez le podcast, quand vous courez, tout simplement, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter le podcast à ce moment-là, mais quand vous courez, vous pouvez me faire un petit dédicace. Je suis en train de courir là, je suis en train d'écouter le podcast à tel endroit. Vous faites ça, par exemple, dans une story Instagram avec, vous me taguez, @BertrandSoulier, vous mettez le hashtag KM42podcast ou même le hashtag KM42, hein, je vais surveiller les deux. Et donc, moi, après, je repartage, hein, je montre un petit peu où vous êtes les uns les autres, hein, ce que vous courez, comment vous courez, quels sont les, parfois aussi les petits défis que vous lancez vous. Hein, c'est la grande communauté comme ça qui progresse. Et puis, je vous remercie aussi pour les commentaires que vous laissez sur Apple Podcast qui sont très importants. J'en ai eu beaucoup la semaine dernière, enfin, plus que d'habitude. J'ai eu aussi beaucoup de remarques, des messages privés, etc. sur notamment la fin de l'épisode, sur la partie où je réagissais à un commentaire qui n'avait pas été forcément très sympathique. Je vais vous lire juste le commentaire de Frédéric qui dit « J'ai apprécié ta réponse sur la fin du podcast, mais je te donne la définition du mot athlète. Personne qui pratique un sport, en général un sport individuel, l'athlétisme. Donc je pense que tu es un athlète. Moi aussi, athlète lent, mais peut-être, mais athlète. En tout cas, tes podcasts sont intéressants et donnent de la fraîcheur sans jugement. Bonne continuation. » Merci beaucoup Frédéric pour ce commentaire et merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. Ça aide le podcast à être découvert. Ça montre aussi comment vous ressentez, comment vous recevez-vous les épisodes. Et le précédent dernier invito avec Thibaut avait eu un franc succès. Hein. Vous aviez adoré entendre un petit peu comment lui il envisageait la course. Et vous verrez que cette discussion avec Mathieu, eh ben, c'est aussi une autre manière. Hein. C'est vraiment dans une autre approche, dans une autre manière de fonctionner, dans une autre manière de courir, dans une manière de voir les choses. Un parcours aussi qui est différent, hein, qui par un moment nous ressemble au nôtre, mais qui a aussi des points un petit peu différents. Et donc, je vous laisse avec cette discussion avec Mathieu, dans laquelle on a parlé de beaucoup de sujets, mais notamment de comment il est arrivé à progresser, à toujours se challenger pour essayer d'aller plus vite, et comment il découvrait aussi, hein, finalement, la course à pied, et comment il a aussi... Faut le dire, du mal à se freiner, hein, comment il a du mal à se reposer et comment finalement il gère aussi cette partie récupération et comment il apprend petit à petit aussi à essayer d'aller moins vite, à découvrir l'endurance mentale et plein de choses comme ça. Donc je vous laisse maintenant avec la discussion avec Mathieu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ?
Très bien, et toi Bertrand ?
Ça va très bien, merci pour venir me rejoindre pour ce dernier invito, dernier invito, c'est un petit peu compliqué de le dire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont adoré le premier, alors on va explorer une nouvelle manière de courir, une autre manière de courir avec ta pratique à toi. Alors ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots et que tu nous dises notamment comment tu es venu à courir.
Alors je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, j'habite en Gironde. J'ai deux enfants, deux petites filles et je suis marié. Voilà. Ensuite, je suis venu à la course à pied en mai 2019 pour perdre du poids, tout simplement, parce que j'étais un bon hamster joufflu de 115 kilos. Donc du coup, je me suis mis à la course à pied pour perdre du poids, tout simplement.
Oui, alors il faut le dire, hamster joufflu qui a bien perdu. Et je pense que tu es le hamster le plus rapide de toute la tribu des hamsters. Hein, soyons honnêtes, parce que les résultats sont impressionnants et quand on regarde un petit peu ta pratique. Et je pense que tu dois courir énormément quand même. Je sais pas combien ça représente de courses pour toi là, par semaine. Est-ce que tu peux donner, est-ce que tu as calculé à peu près ?
Ah ben c'est simple, je fais 3 entraînements semaine uniquement.
D'accord. Tu cours combien de temps à peu près sur des séances ?
Ça varie selon ce que je fais. Si je fais du fractionné, si je fais du... En fait, selon le travail que je fais, travail de côte, ou je l'alterne en fait.
D'accord. Et en kilométrage à peu près, ça fait ?
Là, la semaine dernière, bon, j'ai tapé dedans, j'étais à 52, mais en général, je tourne entre 30 et 40 km semaine.
D'accord. Bon, finalement, c'est pas un très gros kilométrage. Hein. Moi, tu vois, je m'attendais à ce que tu... Je pensais que tu faisais plus.
Non, du tout.
Bon, comment tu t'as appréhendé finalement, si tu te rappelles, tiens, le premier jour où tu allais partir courir dans ta démarche de reprendre le sport.
Complètement, je suis parti courir, c'était juste après le travail. Je suis rentré à la maison, j'ai pris mes baskets et j'ai dit tiens, je vais tenter, ça faisait La dernière fois que j'ai été courir avant ça, c'était il y a bien 6 ans en arrière, avant que je rechausse une paire de baskets pour courir. Et du coup, je suis parti courir jusqu'à la mairie du village d'à côté, tout simplement. Ça faisait 6 km, donc c'était la première fois que je recourais depuis. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit la prochaine fois, tout content. Et j'avais mis, je crois, 30 et quelques minutes, pas loin de 40 minutes presque. Et j'ai dit à ma femme, la prochaine fois, je ferai moins de 30 minutes. Et du coup, j'ai recommencé 2 jours après. Et petit à petit, le chrono a descendu. Et c'est là, après, que j'ai augmenté la distance. Au bout d'un mois, j'ai fait mon premier 10 km. Et non, même pas. Au bout d'un mois, j'ai commencé en mai. En juin, j'ai fait mon premier semi-marathon en distance. Et en juillet 2019, j'ai fait mon premier 30 km.
Oui. Alors toi, par contre, tu vas vite. Hein. C'est fait partie de ceux qui sont. T'es pressé quand même, hein, je trouve, sur la vitesse, sur le. T'aimes la compète, hein, en fait. Hein.
C'est ce qui me donne en fait envie de. Ouais, c'est le challenge. J'adore le challenge, ça me permet de me dépasser à chaque fois. Là, petit à petit, j'apprends à courir doucement. Parce que j'ai découvert les joies de l'endurance fondamentale, grâce à toi d'ailleurs, et à ton podcast. Et suite à ça, c'est vrai que petit à petit, j'apprends à courir doucement. Comme ce matin, par exemple, où j'ai fait une sortie tranquille, où j'ai appris à apprécier le paysage, tout ce qu'il y avait autour de moi.
Qu'est-ce que tu. Alors, tu as couru ta plus grande distance finalement, c'est le marathon.
Oui.
Après un an d'entraînement, hein, c'est rapide hein, quand je disais. Hein.
Oui, tout le monde a fait la remarque justement que j'avais eu une progression assez rapide. Notamment en février dernier, j'avais été au ASICS Running Lab Tour à Bordeaux pour faire une analyse de foulée, tout simplement. C'est là que j'ai découvert que je m'étais complètement trompé au niveau de l'analyse de foulée d'ailleurs. Je pensais être en pronation, au final j'étais en supination. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que certaines douleurs que j'avais étaient dues à un mauvais choix de chaussure, tout simplement.
Ah oui, alors ça c'est un point intéressant, tiens. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et je me rappelle l'épisode avec Cécile Bertin, on avait parlé qu'elle était un petit peu découvert ce que c'était la pronation, la supination, etc. Et toi donc finalement, t'es couru, c'est quoi? C'est la marque qui n'était pas adaptée? T'avais des renforts qui n'étaient pas adaptés?
Mais en
C'était.
fait, à la base, j'avais, en fait, j'étais, bah, j'ai commencé, j'ai pas, voilà, j'ai commencé avec des Mizuno, des Wave, je sais plus c'était lesquelles, c'était celles qui étaient avec un gros amorti, avec un gros drop. J'avais suivi sachant que j'y connaissais pas grand-chose au début, mais je fais comme tout le monde, j'ai regardé sur Internet, j'ai cherché et j'ai tapé chaussures pour coureurs lourds. Et j'avais été dirigé vers ces Mizuno-là. Avec un gros drop, bon, même si le drop au final n'est pas forcément le meilleur ami pour la course à pied, mais parce que là actuellement je suis en drop 5 sur des Glide Ride de chez ASICS. Et du coup, en fait, le problème qu'il y avait, c'est que sur les Mizuno, ça allait parce que c'était universel. Et après, j'ai voulu faire comme tout le monde, j'avais perdu du poids, donc je faisais plus que 80 kilos en octobre 2019. Donc du coup, j'ai réussi à vraiment me fondre bien comme il faut. Et suite à ça, je me suis dirigé vers Nike, parce que Nike font toute une apologie sur la vitesse de leurs chaussures. Et sachant que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, moi aussi, je pourrais peut-être aller courir plus vite avec les chaussures. Et suite à ça, je suis passé chez Nike, et en fait, les chaussures ne me convenaient pas du tout, j'avais des douleurs aux genoux et compagnie. Et c'est après que j'ai découvert justement le problème que j'avais, enfin le problème, non, le fait que j'étais en supination et non en pronation. Voilà, tout simplement.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon, on a chacun nos marques, etc. Moi, je sais que Nike, je mets pas les pieds dedans, c'est
Ouais.
pareil. Mais Asics non plus. Donc, tu vois, moi, Asics, c'est un espèce de renfort à l'intérieur du pied qui me fait, qui est assez douloureux pour moi. J'avais remarqué, j'avais tapé dans des modèles haut de gamme hein, et j'avais tout de suite mal à l'intérieur du pied. Et j'étais allé voir un boutique, il me dit oui, mais c'est normal, il y a un renfort à l'intérieur. Si le pied n'est pas fait pour, ça colle pas. Et c'est ce qui montre hein, d'ailleurs que c'est pas si facile que ça de choisir une paire de chaussures. Hein, quand on connaît après, moi c'est pourquoi je parle de Altra, parce que je sais que je suis dedans comme dans des chaussons. Mais choisir une paire de chaussures au départ, c'est pas si simple que ça. Et on a beau dire, hein, les tests en magasin, tout ça apporte finalement pas beaucoup d'informations. Internet. C'est un peu compliqué, hein. Moi, on me demande des tests de chaussures, je suis un petit peu mal placé quand même, parce que je me dis, mais moi, ça me va bien à mon pied, mais est-ce que ça ira à tout le monde? Est-ce que toi, finalement, tu te dis, maintenant, là, j'ai trouvé un modèle de chaussures, je reste là-dedans, ça résout tous mes problèmes
Mais justement, en fait, moi je trouve que Internet c'est un peu Un peu une usine à gaz en fait pour les tests de chaussures parce que comme tu l'as souligné c'est chacun en fait mais par rapport à son ressenti chacun a un ressenti différent. Moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais les Nike tu pourras courir avec longtemps sur des grandes distances tu verras c'est vraiment bien. Après il y en a d'autres qui me disaient non non surtout pas Nike j'irai même pas courir un semi-marathon avec des Nike. Moi les ASICS au final oui moi les ASICS je suis tombé vraiment amoureux de ce modèle-là les Glide parce qu'en fait elles ont un effet balancier. C'est un modèle qu'ils ont sorti. En fait, c'est la version améliorée de la Metaride qui était ultra chère, qui coûtait, je crois, 250 € quand elle est sortie. Là, c'est là, les Glide Ride maintenant sont descendues. Enfin, maintenant, elles sont. Celle-là, c'est la version 2.0, entre guillemets. Et celles-ci sont dans les 160 € je crois, de souvenir. Et c'est l'effet balancier, en fait, qui m'a vraiment plu. Et par contre, à défaut, il n'y a pas de renfort. Comme tu soulignais, qui sont en principalement les renforts que tu parles, c'est des renforts en général que tu as sur les Kayano ou sur les Nimbus, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et que les Glide, non, du tout. Elles ont un effet balancier qui est assez surprenant. Au tout début, c'est même perturbant. Tu as l'impression que la chaussure te fait aller vers l'avant, en fait, toute seule. Donc, c'est assez perturbant, mais au final, on y prend goût. Et j'ai fait pas mal de types de terrains différents avec. Je me suis même amusé à aller dans des chemins de boue et compagnie avec. Ça a tenu la route. Bon, là, maintenant, j'ai préféré choisir des chaussures de trail qui sont beaucoup plus adaptées pour ce genre de choses. Parce que c'est vrai que d'aller patauger dans les champs avec des chaussures qui sont faites pour les routes et chemins tracés, on va dire, c'est pas vraiment la meilleure solution. D'avoir des chaussures de route remplies de boue pour courir, c'est pas top. C'est pas vraiment fait pour.
Ouais, je te comprends parce que la semaine dernière, je suis allé sur un chemin avec mes chaussures, avec mes escalantes qui sont en plus super lisses. Et dans une descente, je tenais pas debout. Mais bon, faut dire que mes escalantes, elles ont 1460 km au compteur. Donc elles sont lisses. Et sur un terrain qui était glissant, elles tenaient pas le choc. Et j'ai surpassé avec mes trails. Et avec les trails, ça passe tout seul, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des chaussures qui sont plus adaptées que d'autres. Mais si je me souviens bien, le modèle que tu dis, là, les rides et tout, c'était. Ils ont lancé ça au marathon de Tokyo l'an dernier. Hein. Il y avait des influenceuses, Anne de Bendidou et compagnie, qui étaient allées avec, qui avaient parlé justement de cet effet balancier. Donc tu dis, toi, tu as l'impression que ça te fait une espèce de. Comme si ça te forçait à aller vers l'avant, en fait. Alors.
C'est ça, en fait. La chaussure, en fait, elle est un peu incurvée à l'avant. T'as vraiment, enfin, tu le vois, hein, la chaussure, ça fait comme une banane.
Ouais.
Et c'est assez bluffant, en fait, mais vraiment. Sur l'effet de balancier, en fait, ça, alors, au début c'est un peu perturbant parce qu'on a l'impression d'avoir une boule juste à la base des orteils. C'est un peu bizarre au début. Et au final, on s'y fait. J'avais été très surpris parce que je les avais essayés, donc comme j'avais spécifié au ASICS Running Lab Tour à Bordeaux. Et je courais en Nike avant ça. Et du coup, quand je les ai essayés, ils m'ont passé une paire de chaussures. Je suis parti courir dans les rues à côté. Et de suite, j'étais vraiment à l'aise dedans. Mais vraiment, c'est même ce qui m'a surpris au début. Je me suis dit, ouais, j'appréhendais un peu parce que bon, c'est pas de chaussures que je connaissais. Et j'étais sur des standards où habituellement j'étais dans les 4 minutes, je sais plus combien j'étais exactement, dans les 4:15, 4:20, je crois. Mais c'est des temps que je faisais quand je courais assez vite en général. Que là, j'étais vraiment à l'aise. Donc c'est pour ça que j'étais assez surpris quand je me suis rendu compte du temps au kilomètre que je faisais. Je dis, tiens, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça aide vraiment la propulsion vers l'avant, aide peut-être vraiment bien. Après, c'est des chaussures qui sont plus, par contre, comme ils m'ont bien spécifié, c'est par rapport au fait que ma foulée. Pareil, j'ai réussi à faire mon changement de foulée. Avant, je faisais une grosse attaque talon. Et je suis passé médio avant, enfin, plus médio pied. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu, qu'ils m'ont conseillé les Glide Ride, justement, qui étaient vraiment plus pour les gens qui attaquent médio avant.
D'accord. Alors, comment tu as réussi à faire ça? C'est un point intéressant parce que c'est un gros point de difficulté hein, pour beaucoup. Comment tu as réussi à changer ta foulée, en fait?
En me forçant tout simplement quand je me suis rendu compte en fait que j'attaquais talon je m'en suis rendu compte vraiment en fait sur les photos que j'ai eues suite au semi-marathon de Bordeaux. En fait, sur les photos, on voyait vraiment que j'attaquais vraiment mes talons et j'ai dit tiens, c'est pas bon. Chacun dit pareil là-dessus, il y a plein de sons de cloche différents. On nous dit que l'attaque talon c'est mauvais, c'est mieux d'attaquer médio. Au final, quand on regarde dans les coureurs élites, il y en a qui attaquent talon et ça leur pose aucun problème. Mais moi, j'ai voulu essayer de faire, on va dire, au niveau physiologique, chercher une attaque médio avant, qui est beaucoup plus naturelle et meilleure pour le corps, surtout pour les articulations. Et du coup, en fait, tout simplement, en passant chez Nike, Parce que j'avais acheté les Nike, c'était lesquels encore? C'était pas les Vaporfly, mais c'était un modèle, c'était les Pegasus Turbo 2, je crois, quelque chose comme ça, avec la petite lame en carbone en fait sur l'avant de la chaussure. Et du coup, il fallait vraiment aller chercher du coup le médio avant pour vraiment profiter de la chaussure au maximum. Et du coup, c'est comme ça que j'ai petit à petit, par l'entraînement, par des séances d'entraînement spécifiques, à courir vraiment, à m'obliger à poser, à vérifier à chaque fois en posant le téléphone sur la route, faire une petite vidéo quand je passais à côté pour voir comment mon pied se posait. Et voilà, au fur et à mesure, comme ça, et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un automatisme. Mais ça m'a mis, j'ai pris quoi? J'ai pris 4 mois, je crois, pour changer ma foulée. Ça a été très rapide au final par rapport à d'autres personnes qui ont fait ça pendant plus de 6 mois et qui n'ont même pas réussi à changer leur foulée et qui ont laissé tomber parce que c'était trop compliqué.
Ouais, mais il y a même des gens qui n'arrivent jamais, effectivement, comme tu dis, à la changer, hein. J'ai vu des discussions, j'en ai parlé avec même au club, hein, j'en ai parlé avec des gens qui disent que ils pensent qu'il y a des gens qui ne pourront jamais changer leur foulée, qui n'arrivent pas à la changer parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ont couru trop longtemps avec. Bon, toi, t'as pas couru. Finalement, si longtemps que ça, peut-être que c'est ce qui a aussi accéléré. Puis peut-être qu'après, on a aussi dans nos têtes, on est peut-être fait un petit peu différemment. Il y a peut-être des gens qui sont plus, qui arrivent mieux à changer, en fait, hein, ce que je veux dire. Comme tu as changé plein de choses dans ta vie, peut-être qu'à ce moment-là, le fait de changer de foulée, c'était peut-être relativement simple par rapport à ta perte de poids, par rapport à plein de choses. Hein, on ne sait pas finalement. Hein.
Oui, c'est possible, ouais, c'est complètement possible. C'est vrai que, après, c'est vrai que, comme bah, tu l'as souligné, hein, j'avais. L'attaque talon, j'ai commencé en mai, donc j'ai commencé mon changement de foulée, on était en octobre, novembre à peu près, vers le mois de novembre, donc c'était très rapide au final par rapport à l'expérience que j'avais au niveau course à pied, j'ai eu la chance de pouvoir m'adapter plus facilement.
Est-ce que tiens, on parlait de perte de poids parce que c'est un élément intéressant. Est-ce que tu as commencé par courir et pour perdre du poids ou tu as commencé par perdre du poids et courir après en fait? Dans quel sens tu t'as pris le truc?
Alors j'avais atteint mon poids max, c'était en janvier 2019 où je faisais 115 kilos. Du coup, je m'étais rendu compte avec ma femme, on s'était rendu compte que j'avais pas mal pris. On avait pas mal pris tous les deux parce que ben, voilà, avec les deux petites et tout, on va dire qu'on a fait un bon rééquilibrage alimentaire aussi, qui a été très important. Et au final, j'ai commencé la course à pied parce que je manquais de cardio. Parce qu'au début, j'ai voulu me remettre au football avec un ami. Et au final, bon, c'est pas du tout mon dada, mais bon, parce que j'ai deux pieds gauches, donc c'est pas forcément. Mais du coup, voilà, j'ai voulu en fait par ça me remettre au football, et c'est comme ça que du coup, j'ai dit bon, ben en fait, je tiens pas du tout sur un terrain. Va falloir que j'aille courir. Du coup, ça m'a aidé à perdre du poids, à récupérer du cardio. Et du coup, ça a été une progression petit à petit au final, comme ça. Mais j'ai perdu beaucoup de poids grâce à la course à pied. Bon, aussi à côté par rapport à du HIIT que je faisais en alternance. J'alternais course à pied et HIIT. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Là, maintenant, je me suis stabilisé. Depuis novembre, octobre-novembre, je suis à 80 kilos. Et j'ai pas repris. J'oscille entre 78 et 80 kilos depuis le mois de novembre. Vous verrez peut-être
Ouais.
mon équilibre.
Et pour les habitués du podcast, ceux qui ont écouté un épisode où j'ai parlé de dire qu'il y avait un auditeur qui avait des abdos à me faire pâlir, c'est toi. Voilà. Soyons clairs, c'est lui. Voici le coupable qui. Enfin, le coupable, non, parce que c'est vrai, c'est incroyable. Hein. Soyons honnêtes. Si on regarde, je crois que tu as mis des photos sur ton compte Instagram, hein, il me semble.
Sur le Rome Club, je l'avais mis.
Ouais, et le changement, il est hallucinant. Enfin, je pense que les gens dans ton entourage, s'ils t'ont pas vu pendant 6 mois, ils ont pas dû te reconnaître.
Ah oui, bah complètement. Il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit que la transformation était assez impressionnante. Après, voilà, c'est un tout, hein. C'est l'entraînement, la rigueur. Après, je me prive pas non plus, hein. On va pas se mentir. Pendant les fêtes de Noël, je me suis fait plaisir et tout. C'est juste que je fais attention à ce que je mange. Voilà, tout ce qui est soda, éviter. Enfin, voilà, pas mal de choses qu'il faut éviter. Après, c'est pareil, les abdos, de toute façon, c'est du travail. Après, bon, là, j'ai triché sur la photo parce que, bon, je sortais d'une séance, donc j'étais bien congestionné. Mais du coup, c'est sûr que ça se voyait un peu plus. Mais sinon, non, c'est voilà, c'est un travail d'une routine qu'il faut arriver à se mettre pour garder cette habitude, comme une routine d'entraînement en fait, tout simplement en course à pied. Hein. Moi, je cours que 3 fois par semaine, comme on avait souligné tout à l'heure. Et après, tout ce qui est abdos, compagnie, voilà, c'est faut le faire entrer dans une petite routine, soit le soir, soit le matin, selon chacun. Et petit à petit, ben, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut, tout simplement.
Ouais, et c'est vrai, hein. Bon, après, il y a des résultats qui sont impressionnants. Comment tu as vécu le confinement en tant que coureur, toi?
Alors moi, le confinement, ben, à l'inverse de toi, moi, j'ai continué à courir dans mon jardin. J'ai un petit jardin, enfin, j'ai un jardin, donc j'ai quand même continué à courir. Ça a commencé par des petites distances. J'ai fait un premier 5 km, hein, suivi d'un 10 km. Et arrivé le moment où ben, je me suis mis l'habitude de courir un semi-marathon tous les mois. Et là, je me suis retrouvé ben, bête parce que je pouvais toujours pas courir dehors. Donc du coup, j'ai couru mon semi-marathon dans mon jardin. Ça a été un peu compliqué. On m'a suivi à la trace pendant quelques semaines dans le jardin, mais j'ai réussi à tenir un bon bout. Et du coup, ben, j'ai couru en fait tout le confinement quasiment dans mon jardin. Et après, quand ils ont mis l'autorisation d'un kilomètre, 1 heure, je crois, de souvenir, c'était, ben, j'ai pu aller courir en fait dans le bourg de mon village, donc il y a personne, un tout petit village. Et du coup, ça me permettait de faire ben, les fameuses Sunday Race que je fais quasiment tous les dimanches quand elles ont lieu, petite course de 5 km, qui permettent au final ben, de me faire une séance de cardio, au final, enfin, qui me sert de séance de fractionné, ni plus ni moins, où là, ben, je lâche les chevaux, en fait, hein. Je donne tout ce que j'ai. Et ça me permet de bien faire monter le cardio et petit à petit, c'est comme ça que j'ai progressé au final sur les.
Oui, alors tiens, explique ton principe des Sunday Race quand même, parce que ceux qui te suivent pas
Alors en fait,
ne connaissent pas.
ça vient de l'appli. C'est une application qui est disponible sur, je crois, sur iOS et sur Android. De toute façon, je crois que c'est les deux, hein, ils le font. Ça s'appelle Running Heroes et en fait, il y a des challenges dessus. Qui en fait c'est on court et pour gagner ben, on peut gagner des lots en fait dessus. On gagne des points à chaque activité qu'on fait, course à pied, vélo, marche, enfin, il y a plein de choses qui prennent en compte. Et du coup on gagne des points qui nous donnent des bons de réduction pour diverses choses. Hein. Je crois qu'il y a énormément de marques dessus qui sont affiliées. Et le principe des Sunday Race, du coup, c'est que là en ce moment, ils font depuis le confinement, ils ont lancé ça, c'est une course de 5 km, donc virtuelle. Chacun court en fait la distance de 5 km dans son coin avec un tracker GPS, donc soit une montre, soit même pour ceux qui n'ont pas de montre, ils peuvent le faire avec l'appli Nike ou même l'appli Strava directement sur le téléphone. Le but c'est de courir 5 km et d'arrêter le chrono en fait à 5 km. Faut pas dépasser, je crois, plus que 5 km 5 de souvenir. Et du coup après ils font un classement et ça permet en fait d'avoir voilà un petit challenge qui motive en fait, qui donne c'est une petite carotte pour continuer d'avancer les pour continuer d'avancer et de continuer les entraînements en fait pour se motiver en ces périodes un peu compliquées où il n'y a pas de compétition au final.
Ouais, alors je suis sur l'application en ce moment, je suis en train de regarder. Effectivement, alors, Running Heroes, moi je suis dessus, mais c'est vrai que les Sunday Race, je les avais un petit peu loupés. Parce que c'est vrai que moi je suis pas très fan des courses virtuelles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, au contraire, les courses virtuelles, elles te motivent beaucoup.
Oui, complètement. Ça a été un peu ça a été mon meilleur copain, on va dire, pendant le confinement, et même depuis la découverte au final de cette application. Parce que c'est vrai que c'est bon. Après, moi, j'aime bien le côté de voir l'amélioration que j'ai au fur et à mesure du temps. Et ça me permet de me comparer par rapport aux autres coureurs aussi, parce que bon, je suis un bébé coureur, hein, ça fait qu'un an, pas plus d'un an maintenant que je cours. Et c'est vrai que du coup, ça me permet de voir un peu où est-ce que je me place par rapport aux autres coureurs. Et c'est vrai que du coup, bah, je suis assez content parce que je vois que je me classe plus ou moins bien. Après, voilà, je sais très bien que certaines fois, bah, comme l'avait souligné Hermano de souvenir la dernière fois, il disait que justement, souvent, le problème, c'est que voilà, on n'est pas à l'abri que quelqu'un passe son tracker GPS à une personne qui court plus vite pour faire la course, ou ne serait-ce que de tricher avec des algorithmes maintenant qui existent malheureusement pour modifier ces données sur Strava. Après, c'est toujours un risque, mais moi je sais que les temps que je fais dessus sont réels, parce que c'est toujours le même parcours que je fais. Et je sais que voilà, j'utilise que mon tracker GPS et à aucun moment, à part mes jambes, il n'y a rien d'autre qui me fait avancer, quoi. Donc pour moi, c'est une source de motivation supplémentaire qui m'a vraiment aidé à tenir sur le long terme pour le moment. On verra plus tard.
Ouais, après, c'est vrai que je pense qu'il faut le voir de deux manières. Il y a la manière où tu fais la compétition avec les autres, où là, bon, il y a les histoires de tricherie potentielles, puis tu n'es pas à l'abri de toute façon qu'il y a un vrai lapin qui s'aligne sur la course. Et quand je dis un vrai lapin, c'est un coureur vraiment très, très, très rapide. Comme sur les. Tu as participé hein, aux 5 km de la Fédération d'athlètes. Hein,
Oui, tout à fait, oui. Mais il y a les classements qui devraient tomber normalement là en début de semaine. Au final,
Ouais.
le classement que
Et...
j'avais n'était pas vraiment complet. Enfin, c'était un classement Strava que j'avais réussi à trouver. Qui était pas, j'avais fini dans 425e, je crois, souvenir.
Mmh.
Bon, classement honorable, mais qui n'était pas forcément peut-être officiel, dans le sens où on n'a pas eu le classement complet de la fédération, donc j'attendrai de voir à ce moment-là. Mais du coup,
Ouais.
c'est vrai que oui, non, il y avait des gros coureurs hein, qui étaient en 2,40 au kilomètre, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait...
Ouais, moi j'avais regardé le premier était en 15-30 ou quelque chose comme ça.
Oui, non, c'était impressionnant.
Ouais, donc là c'est vrai qu'on est donc il y a cet aspect-là de courir avec les autres et se dire bon, est-ce que je peux arriver à la gagner ou pas, c'est un truc. Mais c'est vrai que de faire comme toi tu le fais comme motivation en disant je fais toujours le même parcours, je me teste de dimanche en dimanche, de savoir si je suis plus rapide ou pas. C'est aussi un moyen qui est intéressant, hein. En plus, la Sunday Race, elle est gratuite, contrairement à d'autres courses virtuelles où tu dois payer des frais d'inscription. Donc finalement, ça fait un challenge avec des petits classements, des petits challenges comme ça. Donc effectivement, vu comme ça, je trouve que le principe, il est intéressant. Et c'est vrai que toi, tu es beaucoup plus féru que moi des courses virtuelles, des trucs comme ça. C'est toi qui m'as embarqué aussi dans les 14 km de la Bastille du 14 juillet.
Oui,
Alors
tout à fait, ouais, la Bastille des Races, oui, en effet. Oui.
moi je me suis perdu, donc je l'ai même pas rentré. J'ai laissé en sortie longue parce que je me suis dit c'était ridicule. Et puis de toute façon, je crois que je rentre. Enfin, avec 17 km, je rentrais pas dans les 14. Hein, donc je sais pas comment ils l'auront comptabilisé. T'as fait comment ce jour-là? Tiens, t'avais prévu un parcours.
Alors,
Comment tu t'organises?
mais en fait, j'ai un parcours en fait qui fait à peu près qui fait les 14 km. C'est une boucle que j'ai à côté de chez moi, que je connais très bien, que je fais régulièrement, que je faisais au début en fait pour qui me servait de boucle pour faire mon semi-marathon. Parce que du coup, j'alignais en fait donc les 14 km et ensuite je faisais des tours au final pour ce qui me manquait, les tours de bourg à côté de chez moi. Mon tour de bourg faire 1,5 km à peu près, je crois, de souvenir. Et du coup, je terminais la course comme ça en fait. Et petit à petit, j'ai cherché des petites routes annexes, mais au final, j'ai fait quand même, voilà, une boucle qui part de chez moi, mais qui revient. Donc du coup, le trajet, je l'ai mis sur, on le voit sur mon compte Instagram en vidéo avec l'application Relay.
Oui, ouais, effectivement. Maintenant que comment dire, tu cours comme ça régulièrement, etc., tu t'es fixé quoi comme type de défi?
Bonne question. Alors, déjà faire un marathon en course officielle, parce que le marathon que j'ai fait, c'était un marathon de maison. J'avais couru à côté de chez moi. Je suis parti dans les petits villages aux alentours pour boucler la distance. Donc là, le prochain objectif, ce sera un marathon, donc comme je disais, sur un parcours officiel. Et ensuite, j'ai mon frère qui fait du enfin mon frère un très bon ami que je considère comme mon petit frère qui fait du trail et du coup qui ça me titille un peu le trail surtout sur les petites courses de 80 km et plus pour voir ce que ça peut donner comment le corps réagirait tout ça parce que c'est vrai que c'est des distances que j'ai jamais essayé et c'est des courses qui sont complètement différentes des courses sur route au niveau conditions par rapport au dénivelé et compagnie. Et par rapport à la vitesse, parce qu'on ne court pas du tout à la même vitesse sur route que sur un trail. Donc, sûrement du trail après. Une fois que j'aurai réussi à faire un marathon, continuer un entraînement pour essayer au moins de faire un marathon par an. Et pourquoi pas après enchaîner sur des grosses distances, 80, 100, voire plus. Mais bon, on n'y est pas encore.
Ouais, alors là, c'est encore un autre truc, parce que quand tu dis finalement des petites distances et les 80, ça commence à taper quand même. Hein. On est quand même sur de. On rentre dans l'ultra où là, déjà, il y a. En plus, je sais pas si tu veux rajouter du dénivelé, parce que finalement, tu t'as de la pente chez toi ou t'es assez à plat?
Non, j'ai énormément de mal à trouver du dénivelé. Ça fait beaucoup de montées-descentes, mais qui sont pas très importantes. Là, j'ai fait une sortie de 22 km ce matin. J'avais tout juste 200 mètres de dénivelé. Donc, c'est vraiment rien du tout.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait avec Thibaut, hein, c'est un peu le problème, hein, quand il y a des régions comme ça où on a beau chercher la pente, on la trouve pas si facilement que ça. Donc, alors que moi, c'est ce que je disais aussi, c'est que j'ai du mal à ne pas trouver de pente. C'est l'inverse, puisque moi, 200 mètres, je l'ai fait en 3 km, en fait, hein, 3-4 km, j'ai mes 200 mètres de dénivelé. Si je me, ouais, ça dépend par où je passe, mais à peu près ce matin, je dois pas être très loin de ça en faisant pas beaucoup de distance. Et finalement, comment tu peux, je sais pas, s'il y a une course, tu vois, maintenant que tu t'intéresses au domaine de la course, etc., tu te dis, je vais faire un marathon, un vrai marathon, mais lequel ça serait, tu vois, est-ce qu'il y en a un qui te fait rêver, ou tu te dis, je vais te regarder ce qui se fait autour de moi. Bon, à Bordeaux, le marathon n'existe plus. Donc, ça serait quoi le premier marathon officiel que tu voudrais faire finalement?
Alors, à la base, mon rêve, c'était le même que toi, le marathon de Paris. Parce que je suis originaire de la région parisienne à la base. J'ai grandi en région parisienne. Donc, à la base, mon rêve, c'était de courir le marathon de Paris, quand je me suis mis dans la tête de courir un marathon.
Ouais.
Là, du coup, je m'étais rabattu sur le marathon de Toulouse, parce que niveau logistique, c'était plus simple, parce qu'on a pas mal d'amis et de familles là-bas. Donc, du coup, ça aurait été plus simple de faire celui de Toulouse. Et pourquoi pas, puisque je sais que toi, normalement, tu es réinscrit sur celui de 2021, celui d'Albi, qui est pas loin non plus.
Oui. Oui, parce que alors Toulouse, faut le dire, il était annulé. Tout simplement. Hein. Ils l'ont annulé à cause de Paris en plus. Et quand même Paris s'est redéplacé, j'imagine pas la tête des organisateurs des marathons quand même, hein, quand on regarde un petit peu les dates comme ça. Mais c'est vrai que le jour où le marathon de Paris s'est déplacé sur la date de Toulouse, Toulouse a dit mais on peut pas rester, nous, hein, on n'aura pas nos sponsors, nos partenaires ne sont pas là. Donc ils ont annulé. Ce qui est dommage parce que c'est quand même un marathon qui est assez réputé hein, sur l'ambiance, sur le parcours, etc. Albi, moi j'en ai entendu du bien, puis c'est un marathon qui est ancien, qui a 40 ans. Peut-être qu'on se verra à Albi, effectivement, à voir. En tout cas, moi j'ai mon dossard pour Albi. Hein. Toi, je ne sais pas encore s'ils ont rouvert les inscriptions des dossards, mais moi j'ai déjà mon dossard. Et pourquoi tu n'es pas tenté d'aller faire Paris cette année si par hasard il s'organise?
Niveau logistique, très compliqué. Parce qu'en fait, j'ai ma petite famille qui me suit toujours. Donc après, c'est l'hôtel et compagnie. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais mon petit fan club au semi-marathon de Bordeaux. Et du coup, c'est vrai que ma femme et mes deux filles me suivent dans ce cas-là sur les courses. Et du coup, c'est vrai que de partir en famille à Paris, sachant que c'est pas sûr à 100%, parce que bon, avec ce problème de crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Donc de louer un hôtel et compagnie, et au final si je perds les réservations et compagnie, ça ferait un budget qui pourrait partir en fumée. Et bon, on va dire que c'est de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc c'est pour ça que Paris, ça reste un rêve pour le moment. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'irai le courir, mais du coup je pense prendre un marathon plutôt local, pas trop loin, où on peut y aller facilement et sans trop problème de logement et compagnie.
Ouais. Ouais, et puis tu peux même pas faire le Médoc cette année, parce que le Médoc aussi a été annulé, je crois,
oui,
il me semble.
Hein, si,
ouais. C'est pas simple, hein, ces histoires de courses, de savoir où on peut s'aligner, etc. Et dans les trails, alors, tu pourrais aller où est-ce que ton premier trail, où tu le verrais?
Alors, mon premier trail, normalement, si tout se passe bien, ce sera l'Épicurien de Castelnau d'Estrefonds. Que mon meilleur ami habite là-bas. Et du coup, c'est lui qui m'a motivé. Il m'a dit, j'aurais sûrement des dossards. Donc, du coup, normalement, on devrait aller faire le trail de là-bas. C'est un trail qui fait 11 km. Il y a plusieurs distances, mais lui a pris 11 km parce que lui, il a pris goût à la marche et il fait son GR10. Au mois de septembre, je crois, c'est bien. Enfin, au mois de septembre. Et du coup, on enchaînerait avec ce petit trail de 11 km avec un dénivelé de 250 mètres positif. Donc, pour me faire découvrir un peu ce que c'est réellement le trail. Comme il m'a dit, il attend avec impatience que j'arrive par chez lui pour pouvoir me montrer ce que c'est vraiment le trail, le dénivelé.
Oui, alors, si je me trompe pas, le GR10, c'est les Pyrénées. C'est où, Castelnau d'Estrefonds? C'est 31, d'accord. Oh, je connais pas du tout. Alors, pour te dire, je n'ai pas du tout entendu parler. 11 km, un petit peu de dénivelé, 250.
C'est ça.
Alors, il s'appelle La Gourmande. Tu manges le long du parcours? Il te l'a vendu comment, ce truc-là, le gars?
C'est l'Épicurienne, en fait. L'Épicurien Trail, je crois, ou l'Épicurien Trail, je ne me rappelle plus exactement le nom. En gros, c'est les ravitaux. T'as des plats directement. C'est pas des ravitaux traditionnels. Donc, c'est pareil, avec les conditions sanitaires, je ne sais pas vraiment comment ça va se dérouler. Mais en gros, c'est sur les ravitaux, c'est que des petits plats en fait qui sont servis, des mises en bouche, salés en général, je pense, sucrés. Il y a pas mal de choses sympas. C'est un peu comme le marathon du Médoc où il y a du vin au stand et compagnie pour les ravitaillements, en plus des trucs traditionnels. Et là, je pense que du coup, ça doit être par rapport aux photos que j'ai vues, apparemment, ouais, c'est de la dégustation au final pendant le trail, quoi.
Ouais, je suis en train de regarder l'affiche de la course, l'exquise, la gourmande, l'épicurienne. Il y a des images. Alors, de toute façon, l'affiche, déjà, c'est une affiche pour une. je sais pas, des trucs de cuisine, quoi, de grande gastronomie,
mais
de grande
voilà, cuisine, ouais,
etc. Ça ressemble pas du tout à quelque chose de course. Hein. Il y a une paire de baskets qui traîne un petit peu en haut avec un petit bonhomme qui a une toque sur la tête. Ça peut être une bonne idée, hein, si, pour ceux qui sont dans le coin, effectivement, de trouver des nouvelles courses un petit peu. J'imagine que l'ambiance est bonne, en tout cas. Hein. Je sais pas si t'en as dit. Hein.
Ouais, il m'a dit que c'était vraiment sympa comme ambiance et tout. Donc, ouais, normalement, ça devrait être mon premier trail officiel, du coup. Donc, on verra.
Bon, après, 11 ou 18 km pour toi, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Donc, j'imagine que t'as pas vraiment d'appréhension à aller sur ce type de course.
Non, du tout, parce que, bon, des distances de 11, 18 en trail, bon, je sais que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a du dénivelé. Après, non, je pense pas que... Même ne serait-ce que même un 30 km, je pense, en trail ne me ferait pas forcément peur, dans le sens où je connais la distance sur route. Donc, après, je sais qu'en trail, c'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes allures et compagnie. Mais non, après, il faut voir, parce que c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. De toute manière, le trail et le running, donc même s'il y a la même base, c'est-à-dire la course, mais voilà, les terrains ne sont pas les mêmes. Donc... je m'avancerai pas sur le fait de dire, sur le fait que je serais peut-être pas forcément aussi à l'aise sur trail que sur route. Après, voilà, on verra avec le temps. C'est le temps qui dira ce qu'il en est.
Mmh. Oui, après, c'est vrai qu'on est moins, tu verras, de toute façon, on est beaucoup moins axé l'œil sur le temps, sur le chrono, sur la moyenne au kilomètre. C'est des choses qu'on oublie un petit peu, hein, et puis ça dépend un petit peu les pourcentages de pente. Si c'est roulant, bon, bah, tu reviens sur tes habitudes, j'ai envie de dire. Si c'est pas roulant, si ça commence un petit peu à être un petit peu accidenté, c'est sûr que là, on regarde plus du tout la vitesse. Et c'est une anecdote que j'avais racontée, j'ai fait un trail il y a 2 ans de ça maintenant, et ils nous annoncent au tout début un point de passage, ils ont dit « vous avez 2 heures pour arriver au kilomètre 12 ». Et là... on se regarde, on se dit, ouais, 2 heures pour arriver à faire 12 km quand même, ça nous semble extrêmement large. Et c'était tellement accidenté qu'à un moment donné, j'ai regardé, j'avais une moyenne où mon kilomètre, j'avais mis peut-être 15 minutes à le faire, tu vois, un truc comme ça. Et je suis arrivé juste 10 minutes avant la barrière horaire qui me semblait tellement large parce que justement, y a des endroits où c'est plus du tout le kilométrage qui compte, c'est vraiment est-ce que c'est accidenté, pas accidenté, est-ce que c'est roulant, pas roulant. Bon, voilà, ça fait partie du charme du trail. Et c'est vrai que suivant les organisateurs, il y en a certains qui s'amusent en plus à faire passer. Moi, j'ai passé des cascades, des tuyaux, des choses comme ça, tu vois, il y a des trucs. Donc, une bonne découverte. Et puis, bon, en tout cas, je vois qu'en tout cas, il y a des bons petits plats, ça a l'air un truc sympa. Et après, tu me disais, tu veux faire des trails, genre 80 km, etc. Est-ce que tu en as en tête déjà? Est-ce que tu as commencé un petit peu à te renseigner? Quel serait comment tu construirais pour arriver à cette étape-là, en fait? Qu'est-ce qui te manque pour y arriver?
Déjà, je pense à l'entraînement, déjà, dans un premier temps, parce que il faudrait que je trouve un terrain d'entraînement adapté à ces distances-là et à ce type de terrain, parce que actuellement, c'est vrai que c'est très plat autour de chez moi. Après, c'est vrai que j'avais regardé, c'était le trail des Templiers, je crois, quelque chose comme ça, et que j'étais tombé sur l'affiche qui m'avait vraiment plu. Au final, c'est vraiment le coup de cœur de l'affiche et le nom, tout simplement, le côté Templier et compagnie. Et après, c'est pareil, au niveau de l'entraînement, je sais pas trop. Ce qui me manque actuellement, oui, voilà, ça va être l'entraînement surtout. La motivation, je l'ai, ça, c'est pas un problème. J'ai même une autre motivation à côté, puisque c'est un projet, mais qui est pas du tout encore... qui est encore dans l'œuf, on va dire. C'est pas pareil avec la même personne qui m'emmène faire un trail au mois de septembre. Il aimerait m'emmener faire une Spartan Race. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil. Ce sera un gros entraînement, je pense, à voir. Et normalement, c'est celle de Carcassonne qui veut qu'on aille faire.
D'accord. Alors oui, alors là, tu es carrément dans des objectifs qui sont totalement différents. Mais je pense à certains auditeurs. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait de la Spartan Race. Je ne sais pas où ils en sont dans leurs entraînements. Et c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore totalement une autre discipline qui, je t'avoue, moi, ne me tente pas du tout. Hein. Alors là, vraiment... mais après je dis ça, attention je dis ça parce qu'il y a d'autres trucs, il suffirait que quelqu'un m'invite en me disant tiens on va se faire ce défi là et pour que je dise oui, hein, donc je dis jamais non. Qu'est-ce qui t'attirerait dans ce type d'épreuve?
La Spartan Race en fait c'est ni plus ni moins, enfin je le vois un peu comme un grand parcours d'obstacles, parce que bon, par rapport à mon passé, j'ai été militaire pendant 5 ans dans le génie parachutiste. Et du coup, ça me fait un peu penser un peu à ça au final, au parcours d'obstacles qu'on avait à l'armée, qu'on faisait tous les ans et qu'on faisait régulièrement pour s'entraîner. Et avec le côté de la course et compagnie, ça peut être une... Bon, faut pas se cacher, à mon avis, il y a moyen de croquer physiquement, parce que c'est quand même très physique, par rapport à tout ce que j'ai pu lire et voir. Il faut quand même un gros entraînement. Mais il y a moyen d'avoir quand même des bons souvenirs et de la bonne rigolade, je pense, dans la boue et compagnie, avec le recul derrière. Donc, ça, voilà, c'est le côté voilà, défi physique et défi, défi tout court, au final. Le défi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, au final.
Ouais, et tu me dis que tu as été militaire, il vous faisait pas courir à l'armée ou il n'y avait pas des trucs de...
Alors, si, on avait, quand j'étais à l'armée, je suis resté 5 ans, en fait, on avait tous les ans, on était obligé de courir, on avait un test de course à pied au final, il fallait faire le Cooper, c'était le fameux test de 12 minutes, là. Et après, on avait la marche-course, c'était 8 km en moins de 40 minutes, je crois, de souvenir, en Tri Rangers. Et après, sachant que j'étais TAP, j'avais la même chose, mais. En moins de 50, avec un, enfin en moins d'une heure, avec un sac à dos sur le dos, en Tri Rangers. Et ça, je l'ai fait pendant 5 ans. Enfin, je l'ai eu un test tous les ans pendant 5 ans. Et après, on avait la sortie footing du matin quand on était à l'armée, mais j'aimais pas du tout ça. Je ne supportais pas courir le matin. J'ai été obligé de courir, on va dire, pendant mes classes. Et après, c'était un footing, je crois, c'était par semaine. Uniquement, et après bon, pendant les passages de grade, parce qu'on est en mode école, mais sinon c'était une torture pour moi de courir en fait avant. La course à pied, je n'appréciais pas du tout ça.
Ah oui, c'est ce qui est marrant parce que tu vois, moi c'est vrai que je vois les. Enfin, moi maintenant où je suis, mais où j'habitais avant, je voyais les militaires passer, je les voyais courir, les petits groupes, alors avec leurs t-shirts de couleurs différentes, suivant de quel régiment ils faisaient partie, etc. Et donc, si tu n'aimais pas du tout courir, effectivement, ça devait être. C'est marrant ce changement de. Tu n'aimais pas courir avant, maintenant tu adores courir. Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, pour ce changement?
Je pense que c'est un changement en fait intégral de ma personnalité, de voir les choses, de tout ça. Et c'est vrai que du coup, je suis quelqu'un qui aime me challenger et me dépasser. Le dépassement de moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que j'ai toujours fait beaucoup de sports individuels. J'ai fait du judo par le passé quand j'étais gamin. C'est un sport dans lequel je m'étais vraiment plu, puisque ben, c'était moi contre moi-même au final, si je voulais réussir. C'était ben, m'entraîner pour pouvoir battre les autres. Et la course à pied, c'est un peu pareil au final. Même si il y a des gens qui pourraient s'entraîner. Moi, je sais que par exemple, je pourrais m'entraîner pendant des années et des années. J'aurais pas le niveau d'un athlète dont je me considère même pas comme un athlète, mais comme un sportif. Voilà. Enfin, quelqu'un qui s'est remis au sport. Et, parce que le terme athlète, pour moi, n'est pas approprié dans mon cas, dans le sens où je suis même pas inscrit dans un club parce que je préfère courir en solitaire. Et du coup, c'est vrai que non, c'est. Je sais pas. Je pense que c'est un changement de pensée personnelle au final qui fait que j'ai pris goût à la course à pied. Je pense parce que j'ai vu l'évolution aussi sur moi, ce que ça m'a fait au niveau mental, au niveau physique. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai apprécié la course à pied au final sur le long terme, quoi.
Est-ce que tu t'imagines maintenant, enfin ne pas courir là, tu vois, je te dis la semaine prochaine tu cours pas, tu ressens ça comment là?
Alors justement on en parlait il y a pas plus tard que ce week-end, justement c'est ma femme qui me freine, parce que si je m'écoutais je pourrais enchaîner en fait quasiment tous les jours de courir. C'est une drogue au final, hein. C'est de pas me voir courir, par exemple comme tu disais, si tu me dis pendant une semaine j'ai pas le droit de courir, ça m'embêterait, parce que c'est quelque chose que limite que j'ai besoin, ça me permet de, voilà, de me vider la tête, c'est un moment de détente au final. Même si ça paraît bizarre pour certaines personnes de dire que le courir c'est un moment de détente, mais moi je le prends comme un moment de détente, c'est mon moment à moi, avec moi-même au final.
Mais ce qui n'est pas non plus étonnant, et tu vois, tu reviens à ce qu'on disait avec Thibaut, ce que moi aussi je ressens, tu vois, moi le matin quand je suis sur mes montagnes hier, c'est mon petit moment à moi, dans l'épisode avec Thibaut on disait que c'est peut-être l'un des seuls moments où on peut être avec soi-même, où on n'a pas toujours quelqu'un qui va nous parler, des interruptions, un téléphone qui sonne, des choses comme ça. Donc, c'est pas non plus très étonnant. Et puis après, sur le côté drogue, soyons honnêtes, hein, j'en avais parlé il y a assez longtemps, il y a vraiment un côté drogue hein, qui est généré. Hein, les endorphines, en fait, on y prend goût. Et c'est d'ailleurs, j'avais dit sur le blues post-marathon, hein, quand on a des grosses séances d'entraînement et que d'un coup on s'arrête, eh ben on peut être en manque. Donc c'est logique qu'on puisse être en manque. Mais est-ce que tu n'envisages pas, tu ne fais pas des pauses, tu dis il faut quand même que je me repose. Enfin, ta femme, elle ne te dit pas non mais allez, là, tu cours pas, on va faire une pause comme ça, sans sport, pour voir un petit peu, tu seras plus en forme après. Elle a pas tenté ça à un moment?
Si, après, j'écoute pas mal de podcasts. Bah, j'écoute aussi, j'ai découvert le tien par le biais de ma femme d'ailleurs. C'est elle qui, parce que moi, j'étais pas du tout sur Instagram à la base, donc c'est elle qui a découvert ton podcast comme ça, donc elle m'a fait écouter ton podcast. Et après, j'ai aussi l'autre podcast, La tête d'un coureur, je crois, de souvenir, qui eux, justement, parlaient de cette fameuse trêve qu'il fallait faire au moins un mois dans l'année, de couper entièrement et de reprendre progressivement. Je crois même que tu en avais parlé à un moment sur un de tes podcasts, de souvenir, que c'était bien de couper pour reprendre. Mmh. Mais non, pour le moment, j'ai un peu de mal. Je dois l'avouer, j'ai un peu de mal à me mettre dans l'idée de couper. J'ai toujours besoin de cette petite course. Bon, après, on verra, peut-être qu'avec les vacances, je vais peut-être arriver à décrocher pendant 4-5 jours, mais peut-être pas plus.
Mais après, maintenant que je cours tous les jours là, pendant le mois de juillet pour faire cette expérimentation, j'ai creusé ce que je disais dans l'épisode. Et quand j'étais tombé sur Raven qui court depuis 40 ans tous les jours, tu vois, je me dis, bon, il y a des gens qui sont câblés, on pourrait dire un petit peu comme ça, pour courir tout le temps, en permanence, etc. Après, c'est une question de comment toi, tu gères ta fatigue aussi, comment tu gères ton corps physiquement, etc. Mais en plus, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'époque où tu pesais 115 kilos, j'imagine, tu te sens une énergie qui est incroyablement beaucoup plus forte, quoi.
Oui, complètement. C'est assez perturbant même au début, parce que on voit vraiment l'évolution au final. Quand on commence à courir avec une surcharge de poids, et puis moins. Et au fur et à mesure du temps, on voit son chrono sur la même distance, parce que c'est vrai que j'ai longtemps fait les mêmes parcours. Et donc petit à petit, je voyais la vitesse augmenter, le temps diminuer. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment, on se dit, je pense que c'est un avantage au final de commencer en ayant une surcharge de poids, parce qu'en fait on apprend à courir avec cette surcharge de poids, et du coup le muscle aussi travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il est habitué à avoir une surcharge, et je pense que indirectement ça nous aide à progresser peut-être plus rapidement qu'un coureur qui est pas là pour perdre du poids, mais pour peut-être qu'on a un peu de chance au final dans notre malheur avec cette pratique-là de courir pour perdre du poids, quoi, ni plus ni moins.
Ouais, alors c'est un truc que m'avait dit Sherwin dans l'épisode sur Altra. Je l'avais rappelé ce truc-là, il me l'avait dit dans une séance d'essai, une sortie d'essai. Il m'avait dit, toi t'as du pied, et j'ai dit ouais, ça doit être à force de travailler mon poids. Il m'a dit probablement, effectivement, et surtout comme toi, si t'arrives à le convertir vers l'avant, parce que c'est ce qui est intéressant aussi. Si on le convertit trop vers le haut, on perd de l'énergie, mais toi t'arrives à le convertir vers l'avant grâce à ta foulée médio-pied que t'as réussi à travailler, etc. Et donc effectivement, cette puissance finalement, peut-être explique aussi que tu aies retrouvé des vitesses. Et je le dis, on ne l'a pas dit, mais franchement, quand je dis que tu es le hamster le plus rapide, rappelle-nous un temps sur 5 km, à combien tu cours?
Là, mon 5 km de ce week-end, sur la Sunderay, j'ai fait 18 minutes 41, je crois.
D'accord, donc tu n'étais pas très loin de ton record, parce que quand je regarde ton compte Instagram, il marque 18:39, c'est ça ton meilleur temps?
Alors oui, c'est un peu compliqué, parce que en fait, si je prends sur Strava, je suis en 18:37 ou quelque chose comme ça, en fait ça change selon. Donc c'est pour ça que je me plage par rapport à la montre, pas sur Strava. Mais ouais, je suis pas loin de mon record, j'ai égalé mon record au final, j'ai quasiment égalé mon record ce week-end encore, donc c'est pour ça que je suis content. Mais oui, ouais, c'est une moyenne de 15 km/h, je crois, à peu près.
Ouais. Et le marathon tout seul, quand même, disons-le, 3h42. Là, chapeau, franchement, parce que tout seul, t'avais quoi? T'avais prévu un peu de ravitaillement? Ta famille t'attendait avec...
Non, vraiment. Alors, c'est. Non, non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec un sac cadeau Camelback. Ouais. J'avais 2 litres d'eau avec des électrolytes à l'intérieur. J'avais une banane et 3 barres d'effort à l'amande. Voilà. Je suis parti qu'avec ça, parce que je voulais pas me charger en sucre, parce que j'avais écouté pas mal de choses par rapport au sucre et compagnie. Et du coup, j'ai essayé de faire quelque chose de le moins sucré possible, on va dire. Je suis parti vraiment comme ça, en fait, juste avec ça. Donc, je suis parti très fort au final, je suis parti trop vite, parce que j'avais un objectif de 5 minutes au kilomètre. Et j'étais largement en dessous au début. Je crois que sur le 10e kilo, je sais plus du tout, enfin là, il faudrait que je revienne. Sur le marathon, je sais qu'à un moment, je crois que j'étais en 4:25, donc vraiment une grosse allure, trop grosse d'ailleurs, parce que je l'ai payé après sur les derniers kilomètres. Là, ça a été, ça a un peu piqué les jambes. Mais par contre, j'ai eu la chance, malgré tout, de ne pas prendre le mur. J'ai pas eu je sais pas au pire ce que c'est le mur. Parce que grâce à mon ravitaillement, en fait, perso, avec le camelback d'eau, je buvais régulièrement. Donc, ça m'a permis de m'hydrater régulièrement. Et dès que j'avais un petit coup de pompe, je sentais une petite baisse d'énergie au niveau de ma foulée. Je grignotais quelque chose, un petit bout de barre d'effort ou quoi que ce soit, pour vraiment garder le fil conducteur et ne pas décrocher, en fait, toujours dans la peur de prendre ce fameux mur, parce que je l'ai tellement entendu, ben, ne serait-ce que sur ton podcast ou même ailleurs, tous les gens parlent du fameux mur sur le marathon. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais pas serein.
Oui, non, mais c'est quand même super impressionnant parce que 3,42 tout seul avec en plus tu te charges 2 kilos de plus au départ. Moi je dis chapeau, hein, franchement, c'est quand même impressionnant comme temps. Et ça laisse d'ailleurs, je trouve, hein, je pense, je sais pas si tu t'es fixé, donc tu es prévu de partir sur 3,30 au début, j'imagine. Ça te laisse quand même une belle marge de progression si tu courais en compétition.
Ben en fait, à la base, je m'étais fixé comme objectif moins de 4 heures, tout simplement. Je me suis dit, moins de 4 heures, ce serait très honorable comme temps. Parce que sur mon premier semi-marathon en course officielle, j'avais fait 1h38 à Bordeaux. Donc du coup, je me suis dit que sur marathon, bah forcément, il y a le déclin avec la vitesse et compagnie. Parce que bah, c'est pas du tout la même distance, c'est comme le double, donc c'est pas rien. Donc je me suis dit, moins de 4 heures, ce serait bien. Je m'étais vraiment fixé sans... Au début, je m'étais un peu mis la pression. J'avais ma petite femme derrière qui me disait, mais t'inquiète pas, c'est juste une sortie longue, prends-le comme ça dans ta tête, dis-toi que c'est une sortie longue, tu pars avec ton sac à dos et tu reviens tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et en effet, c'est comme ça au final que je me suis mis dans la tête, hein. J'ai tout le long, quand je commençais à douter un peu, parce que c'est vrai que bah, le temps est long quand même tout seul. Heureusement, j'avais un peu de musique en petit fond derrière. Mais c'est vrai que non, ça a été. Mais je regardais justement au niveau des temps, non, j'étais en 4,42. Pas en 4,25, parce que 4,25, je trouvais ça que j'étais en 4,42 au plus rapide, donc c'est vrai que c'était assez rapide quand même par rapport à ce que je m'étais fixé. Mais oui, c'est une possibilité peut-être de réussir à faire 3h30 sur un marathon officiel. J'ai réussi à passer justement sous la barre des 1h30 en semi-marathon. Pareil, sur perso, comme ça, pour me tester, c'était au mois de juillet dernier, enfin, ouais, ce mois-ci, là, sur le dernier que j'ai fait. Donc pourquoi pas, peut-être que la barre des 3h30 sera peut-être pas mal, ouais, pour le marathon officiel.
Oui, non, parce que c'est vrai qu'avec l'ambiance, avec en plus des meneurs d'allure peut-être qui peuvent aider à régler, et puis le fait de ne pas partir avec 2 kilos d'eau dans le dos, hein, d'avoir un ravitaillement au fur et à mesure, déjà de trimballer moins d'eau au départ, etc., de ne pas avoir le sac, tu peux te dire quand même, tu pourrais avoir des temps qui sont assez prometteurs, surtout quand on voit en plus la progression sur les 5 km, sur les choses comme ça. Est-ce que tu as quand même. Bon, c'est vrai que le confinement, on le disait. Est-ce que tu as quand même essayé de regarder s'il n'y a pas des courses dans le coin, autour de chez toi, voir des trucs où tu pourrais de participer à l'ambiance de la course, quoi?
Ben, j'avais regardé un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de courses qui ont été annulées, déplacées, tout ça. Donc du coup, j'ai dit que cette année, ce serait une année blanche, au final, puisque ben, mon objectif marathon 2020 était un peu tombé à l'eau. Et je m'étais fixé comme objectif marathonien en 2020. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis. C'est ça que je l'ai couru en solitaire. Et du coup, non, je t'avoue que j'ai même pas regardé. Du coup, avec toutes les annulations et compagnie, j'ai dit, bon, bah, cette année, tant pis, ce serait une année blanche. À moins que la crise sanitaire vienne à diminuer et soit sûr que les courses soient maintenues. Mais bon, vu la tangente actuelle, malheureusement, je pense qu'on risque d'avoir une année un peu compliquée pour les courses officielles.
Ouais, c'est vrai, hein. Franchement, moi, ce que je vais surveiller un petit peu, c'est les courses au saucisson, hein, un petit peu ce qu'on appelle comme ça, c'est les courses dans les petits villages où il n'y aurait pas trop de participants. J'essaie de regarder sur les lieux de vacances, tu sais, moi, quand on part en vacances, chaque année en général, on tombe sur une course ou deux qui sont dans le coin, etc., où il n'y a pas trop de participants. Je ne sais pas si elles sont maintenues pour l'instant, ces courses-là. Mes courses de rentrée, un trail que j'avais repéré potentiellement est maintenu. Mais même si j'ai encore un doute, hein, soyons honnêtes, hein, sur des choses, c'est pas facile, hein, de planifier tout simplement, de savoir si on peut courir, ce qu'on doit préparer. Avec ma sœur ce week-end, on parlait d'un marathon. Je lui dis, mais ouais, potentiellement oui, mais est-ce qu'il faut faire la préparation ou pas? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut le faire tranquillement ou pas? Ça fait partie hein, des grosses interrogations qu'on a tous. Donc, se partir sur une année blanche, potentiellement, est-ce qui veut dire qu'après, bah, sur 2021, ça serait quoi alors le marathon que tu pourrais viser finalement?
Ben, c'est pareil, je sais pas. Très franchement, je sais pas parce que c'est sûrement Toulouse, parce que Toulouse, c'est vrai qu'il me plaisait bien, parce qu'on m'a dit que comme premier marathon, c'était pas mal, c'était assez roulant. Voir Albi même hein, peut-être, pourquoi pas même deux marathons dans l'année, parce que c'est vrai que niveau prépa au final, c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on m'a dit que je m'étais complètement trempé sur ma préparation pour mon semi-marathon. C'était assez marrant parce que au final je courais avant le semi-marathon de Bordeaux un semi-marathon tous les week-ends.
D'accord.
Voilà, donc du coup j'avais pas du tout une prépa pour un semi-marathon mais plus pour un marathon. Donc après, on m'a conseillé de lever le pied quand même, parce que c'est vrai qu'un semi-marathon tous les week-ends, c'était assez costaud, niveau distance. Surtout pour quelqu'un qui ne courait pas depuis longtemps et compagnie, au niveau de la récup, c'était pas forcément bon. En plus, en parallèle avec mon travail, parce que je travaille dans une société d'élagage, donc je suis assez à dynamique toute la journée, on va dire en général. Je travaille au sol, donc tirer les branches, brasser du bois et compagnie, c'est pas quelque chose de... c'est un boulot qui est assez physique, déjà par le même, sous la chaleur et tout, et en hiver, dans le froid. Donc c'est vrai qu'au niveau entraînement, c'est pour ça que je cale en fait que 3 séances semaine ou 4 quand j'arrive à faire une séance samedi dimanche, mais en général j'évite parce que du coup j'ai pas de récup entre deux séances, donc même si je cours très tôt le matin en général, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Là je l'ai vu dimanche, j'avais fait une sortie samedi et j'ai refait mes 5 kills le dimanche, même si au final bon, ça s'est bien passé puisque j'ai eu un temps assez propre. Mais c'est vrai que je l'ai senti dans les jambes que j'avais la séance de la veille quand même.
Ouais. Et en fait, oui, ça dépend aussi à la vitesse à laquelle tu les fais. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Il y a cette histoire d'endurance mentale dont tu parlais au début. Si tu fais 12 en endurance mentale ou 12 à fond, le lendemain, tu ne le sens pas tout à fait de la même manière. Et l'avantage, alors, tu disais sur les marathons, c'est que Albi est au printemps et Toulouse, c'est à l'automne. Alors, moi, je dis... potentiellement, tu peux largement faire les deux. En tout cas, ils sont placés diamétralement opposés, d'ailleurs. Hein. Quand on regarde, il y en a un, c'est vraiment fin avril, et l'autre, c'est fin octobre. Donc, les deux sont jouables, en tout cas. Hein. C'est une possibilité.
Oui, niveau préparation, oui, ça laisse largement de quoi préparer. Et même au niveau récup... Après, niveau récup de souvenirs, j'ai pas regardé, justement, parce que toi, tu m'avais dit, enfin, tu l'avais dit, tu avais mis combien de temps avant ta première séance de course à pied, après ton marathon?
Bah, moi j'ai fait une pause, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai plus envie de courir. J'étais un peu, je suis allé marcher, etc. Mais j'ai, pendant au moins, on va dire, non, il y a eu 10-12 jours où j'ai pas couru en fait. Après, j'ai repris doucement quoi.
D'accord. Parce que moi j'ai fait donc mon marathon, c'était le. Oui, c'est ça, mon marathon c'était le 21 mai. Donc, et le 24. J'avais une course de 10 km qui était déjà prévue. Et j'avais fait un 10 km en 41 minutes 44.
Ouais.
Donc j'avais couru 3 jours après. Avec une grosse allure. Et j'avais même été surpris parce que au début je pensais pas du tout avoir les jambes pour le faire. Parce que j'avais quand même fait le marathon avant. J'ai fait pas mal de séances de form roller et compagnie pour bien détendre les jambes. Mais ouais, du coup là je regarde justement et j'avais fait un 10 km le 24 mai juste après.
Ouais. Non, mais t'as la caisse, hein. Y a pas à dire, hein. C'est ce que je dis, hein. Dans les hamsters, il y a les hamsters rapides et les hamsters plus lents. Toi, tu fais partie des hamsters rapides. Officiellement, tu es peut-être même le hamster le plus rapide. Je vais te faire une médaille pour toi. de hamster rapide. On va vous donner des titres. On va se donner des titres. Le hamster rapide. Il y aurait les hamsters nageurs, les hamsters, je sais pas quoi et tout. En tout cas, je trouve que c'est un bel exemple, hein, parce que dire déjà la perte de poids, elle est impressionnante. Mais ça montre aussi que bah, finalement, même la vitesse, hein, ces histoires de vitesse, parce que moi je suis un coureur lent comparé à toi quand on regarde les choses, mais ça veut dire que ça laisse de l'espoir aussi, hein, de se dire quand on retrouve la forme, l'énergie, on peut aussi retrouver plus de vitesse, plus de après t'as Moi, je pense quand même que tu as quelques prédispositions, tu vois. Hein. Enfin, après, je le vois comme ça. Je ne sais pas si tu étais sportif quand tu étais jeune, parce que pour faire l'armée, tu étais quand même un peu sportif au départ.
Alors oui, à la base, plus jeune, j'étais un fan de roller. Je faisais énormément de roller. C'était mon moyen de déplacement, en fait, quand j'étais en région parisienne. Je boycottais les transports en commun. Je me déplaçais tout le temps en roller dans Paris. Donc, c'est vrai que du coup, déjà au niveau cardio, ben, j'avais le cardio un peu musclé. Et bon, avec l'armée, forcément aussi. Mais c'est vrai que oui, niveau sport, moi, j'étais un mordu de sport pendant des années. Après, bon, j'ai eu des soucis de santé avec un problème à l'épaule qui a fait que j'ai dû tout arrêter pendant des mois. Donc, plus d'entraînement, donc prise de poids, parce que ben, je passais mes journées derrière l'écran d'ordinateur. Forcément, je n'avais pas forcément la meilleure disposition en ce moment-là. Et du coup, ben, je me suis laissé aller pendant pas mal d'années, au final, par le manque de sport, en essayant de reprendre, mais ce n'était pas concluant. Donc, du coup, ben, ça me plaisait pas, donc du coup bah, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, mais c'est vrai que non, je pense que oui, c'est aussi après le corps a une mémoire, comme on dit, et donc je pense que oui, les entraînements que j'ai pu faire mais par l'armée, par les années de roller que j'ai fait et compagnie, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé à ma progression assez rapide en course à pied que j'ai eue sur cette année, un peu plus d'un an de course à pied là, qui font que j'ai des temps, voilà, comme certains m'ont dit, qui sont assez impressionnants pour quelqu'un qui débute en course à pied, même au niveau des distances que j'ai pu boucler assez rapidement. Je pense que voilà, le corps a une mémoire, et donc si on a eu un passif au niveau sport, ben, faut pas s'inquiéter, et si on a pris du poids, ben, rien n'est impossible, la preuve.
Oui, et c'est un très très bel exemple, effectivement. Bon, après, bah, il reste à voir sur quelle distance tu vas pouvoir aller, savoir si finalement tu es un coureur lent ou un coureur très résistant, mais tu as l'air d'être un petit peu les deux, hein. C'est ça qui est un petit peu vexant sur l'histoire, parce qu'on se dit, tu vas vite, mais en plus, tu as l'air d'être capable d'être endurant. Je pense qu'il y a aussi une question de mental, hein. Le fait de se lancer des défis, d'aimer se lancer des défis, je pense que ça joue aussi énormément, parce que moi, je leur dis hein, quand même, hein, partir faire un marathon 3:42 tout seul, avec son eau, etc. Comme ça, c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple que ça. Courir en 18 quelque chose tout seul à 5 km. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un que j'ai croisé du club qui, par exemple, disait oui, mais moi, courir tout seul à fond, ça me plaît pas. Quoi. Lui, il faut l'ambiance de la course, etc. Je crois qu'il y a une disposition mentale, je pense, pour aller chercher dans le dur, même quand tu es tout seul, en fait.
Bah c'est, au final, j'essaye de me battre moi-même à chaque fois, au final. C'est comme ça, en fait, que j'arrive à me dépasser. Et après, le mental, c'est le côté challenge, au final, de voir jusqu'où on peut aller, le dépassement de soi, ni plus ni moins. Après, c'est soit on aime ça, soit on n'aime pas ça. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça, d'autres qui aiment ça, justement, au contraire. Et je pense que je fais partie de ceux qui aiment le côté du dépassement de soi et de se battre à chaque fois contre soi-même pour essayer de progresser, ni plus ni moins.
Est-ce que tu as, tiens, on va rentrer dans les dernières questions, est-ce que tu as une séance préférée, tu sais, bon, on va enlever le Sunday Race à tes 5 km, est-ce que tu as un truc, c'est qui t'a, une séance qui te, je sais pas, un truc un peu qui te permet de te dépasser, ou un truc que tu te dis, tiens, j'aime bien faire ce type de séance-là, de la vitesse, est-ce que tu as un truc, ta petite marotte de séance préférée?
Ma séance préférée, c'est mon semi-marathon mensuel, je vais pas mentir, le fait est que j'en faisais régulièrement au final avant, aujourd'hui quasiment tous les week-ends. J'ai levé le pied après le semi de Bordeaux parce que par rapport aux échos qu'on m'a dit, c'est un peu trop, donc faut y aller mollo. Donc du coup, c'est vrai que le petit semi-marathon que je me fais tous les mois, c'est vraiment un peu la séance que j'adore. C'est une distance que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est ni trop courte ni trop longue, et ça permet vraiment de pouvoir de se mettre dans le dur s'il faut, mais autant on peut la faire tranquille et apprécier la séance.
D'accord. Et donc à chaque fois tu te dis je vais battre mon meilleur temps. Comment tu te prépares? Tu te dis c'est vraiment tu le vois en mode compétition ce semi-marathon mensuel?
Ouais c'est ça. J'essaie de me battre mon temps tous les mois. J'essaie de faire mieux ou au moins de coller. Là je pense que ça va dire de faire mieux que ce que j'ai fait le mois dernier parce que j'ai réussi à passer sous 1h30. Mais voilà de toujours rester vraiment de pas avoir un trop gros écart entre deux semi-marathons. Ne pas me retrouver, par exemple, de me mettre un kilomètre, ni plus ni moins, par rapport au temps. D'essayer vraiment de coller toujours au temps que j'ai fait le mois d'avant et d'essayer de progresser comme ça, petit à petit, quoi, ni plus ni moins.
D'accord. Ben voilà, c'est chacun, c'est intéressant comme pratique, hein, parce que c'est vrai que moi, j'étais impressionné, hein, par les temps que tu faisais comme ça. Et puis ce côté course virtuelle, parce qu'on en avait parlé, tu m'avais envoyé un message quand j'avais fait l'épisode sur les courses virtuelles, en disant que toi, justement, tu adorais ça. Alors que moi, et puis tu vois, j'ai recommencé. Bon, on va enlever le côté où je me suis perdu, hein. Mais le 5 km, j'ai pas pris un plaisir énorme, hein, dessus. Alors que toi, j'ai l'impression justement que tu prends un grand plaisir dans ces moments-là, dans ces courses à donner à fond, etc. Et je trouvais que c'était super intéressant de voir justement un petit peu des pratiques qui sont totalement différentes. Et puis bien sûr, il y a bon ce parcours. Tu as un néo-coureur, hein, finalement, donc c'est encore un peu compliqué de se projeter sur en disant. Sur quelle course je peux faire, il n'y a peut-être pas encore des grandes courses qui te font rêver, ou tu vas peut-être dire, ah, tiens, si, tiens, si, tiens, la question comme ça, si je te dis, je t'offre un dossard, tu choisis le dossard où tu veux. Hein, voilà, quelle que soit la course, tu peux aller faire cette course-là. Est-ce qu'il y a quand même une course, tu vois, dont tu te dis, celle-là, j'aimerais bien un jour pouvoir la faire?
Ah bah comme enfin j'ai envie de dire comme beaucoup de coureurs, le marathon de New York, c'est l'un des marathons les plus mythiques, donc ouais, pourquoi pas le marathon de New York.
Ouais, alors j'ai posé la question l'autre jour sur mon compte Instagram et j'ai eu effectivement aussi la réponse du marathon de New York. Ouais, je crois que c'est la course mystique, mystique, mythique, avec, on va dire, allez, tant qu'à faire un Boston et New York, hein, entre les deux, il y aurait le truc. Mais c'est vrai que ça fait partie des courses qui sont mythiques, hein, je pense que là-dessus, on n'y échappe pas. Et en trail, toi qui te dis, tiens, je vais me tester sur le trail, est-ce que tu te dis, bon, je veux d'abord voir un petit peu ce que ça va faire et puis ensuite on y réfléchira?
Ouais, le trail, je pense que bon, je pense que c'est un défi comme un autre, hein, que je me suis lancé par moment. Après, voir si vraiment je m'y tiendrai ou est-ce que parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la route, à défaut que de certaines personnes que je connais qui me disent moi le bitume j'aime pas. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la route au final. J'essaie de me discipliner à courir un peu sur du plus mou, on va dire, sur des terrains un peu plus tendres pour les articulations et compagnie. Mais c'est vrai que non, je m'éclate plus sur route au final que sur chemin. Donc, voir si le trail, j'arrive vraiment à m'amuser dessus et pourquoi pas, oui, voilà, faire des distances un peu plus importantes justement via le trail avec des distances qui seraient moins traumatisantes, on va dire, peut-être pour le corps, même si je pense que des 80 km et compagnie en trail, il y a moyen que ça mette dans le dur quand même.
Oui, alors là, après, tu vois, on pourra en reparler quand on aura fait 80 km en trail, parce que ça sera justement une discussion intéressante. Il y a des gens qui trouvent, hein, que faire un marathon est plus fatigant, hein, que faire un trail. Quelqu'un m'a dit un jour, hein, m'a dit qu'il était plus fatigué après un marathon de 40 qu'un trail de 100 et quelques kilomètres, tu vois, entre du bitume, du chemin plus mou, les vitesses, etc. Donc ça sera un truc, tu vois, on pourra dire dans un an ou 2 ans quand tu auras. Fais ton trail, on va dire à ça, hein, à ton échelle à toi, ça peut être assez rapide finalement, on a envie de se dire. Ça sera intéressant que tu compares, voir un petit peu comment tu vois un petit peu les choses finalement et comment tu perçois la fatigue, hein, parce que c'est, je crois qu'on ne le vit pas aussi tout à fait de la même manière. Et puis je pense que quand les distances s'allongent, il y a d'autres choses qui se mettent en marche, hein, dans la tête, dans la fatigue, etc. C'est peut-être pas la même fatigue non plus qui va jouer. Il y a peut-être des choses qui sont aussi intéressantes là-dessus. Tiens, on parlait de récupération. Est-ce que tu as des astuces de récup, tu vois? Parce que bon, finalement, tu enchaînes beaucoup de grosses séances, même si tu dis que tu en fais 3 par semaine, mais c'est des séances qui ont quand même beaucoup de rythme, hein, on va dire. C'est quoi ton truc, ta récup? Tu parlais de foam roller tout à l'heure, tu fais quoi un petit peu?
Bah j'essaye alors des étirements, principalement j'essaye de faire une séance d'étirement le soir après la séance, pas de suite après la séance mais plutôt le soir avant de me coucher. Une petite séance d'étirement voilà basique, hein. Du foam roller vraiment quand j'ai les jambes lourdes. Après qu'est-ce que bah avec le marathon j'avais acheté un gel cryo qui permet de faire un effet glaçage sur les jambes, donc qui aide pas mal à la récup au final. Donc c'est assez sympa aussi. Mais sinon, non, principalement, oui, voilà, foam roller, étirement. Après, j'ai le petit truc, ben, un peu comme toi, le petit verre d'eau pétillante quand on revient. Là, j'aime bien avec un peu de citron dedans. Et là, dernièrement, des BCA, suite à un rendez-vous que j'avais pris avec un nutritionniste, coach sportif, qui m'a conseillé de prendre des BCA par rapport à l'intensité de mes entraînements, qui m'aideraient pour m'aider à la récupération et puis bon. Donc du coup, oui, j'ai inclus les BCA maintenant dans, après les grosses séances, après mes séances.
Et est-ce que tu, alors ça c'est un point intéressant, est-ce que tu constates des apports ou est-ce que pour l'instant c'est trop récent?
Je pense que oui, je le sens un peu une différence parce que j'ai moins de fatigue au final, parce que ça me permet d'enchaîner sans avoir trop de fatigue derrière avec le travail. Donc oui, j'ai vu une différence. Après, c'est vrai que là-bas, je prenais rien du tout. Donc j'étais vraiment sur le basique, hein, le verre d'eau pétillante avec un peu de citron et après des étirements et beaucoup m'hydrater. En général, après une séance longue, je buvais minimum une bouteille d'eau dans l'après-midi ou dans la matinée pour vraiment hydrater le corps. Toujours avec des petites saccades pour éviter de trop boire inutilement. Mais du coup, non, je pense que. Enfin, oui, je ressens une différence quand même au niveau recul. Je me sens mieux.
Alors voilà, ça c'est un point intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un coach aussi m'a conseillé de le faire, m'a dit oh, tu verras, ça va décupler ta récup, tu seras beaucoup mieux, tu pourras enchaîner, etc. J'avoue que je n'ai pas testé, mais ça fait partie des points d'interrogation. Et un jour, on fera un épisode. Je ferai un épisode sur l'alimentation spécialement avec une nutritionniste un petit peu pour discuter de ça, de ce sujet-là, parce que c'est un sujet complexe, hein, l'alimentation quand même, d'arriver à savoir ce qui est efficace pour nous. Et puis je crois qu'on est tous un petit peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup différents aussi les uns les autres. Et donc il y a des choses qui marchent pour les uns et d'autres et qui marchent pour les autres. Que dire de plus finalement, je t'ai pas demandé, tu cours pas sur tapis toi?
Si, je cours aussi sur tapis. Ben, pendant le confinement, beaucoup. J'ai couru beaucoup sur le tapis. C'était un cadeau qu'on s'est fait l'année dernière avec ma femme, juste avant Noël, au mois de décembre. On a investi dans un tapis de course pour qu'elle puisse courir aussi un peu sur tapis de course, pour s'y remettre. Et moi, ça m'a permis de faire pas mal de séances dessus, des séances de 10 x 400, surtout en période hivernale quand c'est un peu compliqué, parce que ben, l'éclairage public... certaines fois, et pas forcément de très bonne qualité selon là où on va. Donc, du coup, ça m'a permis de pas mal travailler aussi pendant les périodes hivernales et pendant le confinement.
Et est-ce que tu es aussi rapide ou est-ce que tu es plus rapide sur tapis? Est-ce que tu fais des tests d'ailleurs sur 5 km sur tapis?
Le problème, c'est que sur tapis, c'est un peu... J'aime pas trop le côté de tapis de course, dans le sens où, sachant que ta montre, sur les montres, c'est un accéléromètre qu'on a. Du coup, le temps en kilomètres sur la montre n'est pas le même au temps en kilomètres sur le tapis. Donc du coup, je sais jamais trop si c'est le tapis qui a raison ou si c'est la montre. Donc du coup, je fais les séances sans trop regarder le kilométrage. Je fais les séances, mais voilà, c'est plus pour dire que j'ai fait la séance, ça me garde ma routine. Mais je base pas mes temps sur tapis, comme parce que c'est pareil, on peut mettre de l'inclinaison ou non sur tapis. Surtout que c'est conseillé de mettre au minimum 1% de relever un peu le tapis pour avoir une vraie condition par rapport à la condition de dehors, ouais. Qui est pas du tout la même en fait quand on court sur route. Au final, on a toujours un petit dénivelé très léger, mais il peut y avoir toujours un petit dénivelé sur le tapis. Si on le laisse en position au final zéro, on n'est pas dans les conditions équivalentes au final à la route. C'est ce que j'ai pu lire sur certains conseils qu'on peut trouver sur internet pour courir sur tapis. Mais sinon, non, j'ai fait des séances de côte sur le tapis où je mettais le tapis en inclinaison maximum et je courais une heure voilà, sur le tapis en inclinaison max. J'ai pu faire du barefoot. J'ai testé une séance de 4 km sur le tapis justement. Première fois que je cours à pieds nus, du coup, c'était sur le tapis de course. Parce que c'est toi qui m'en avais donné l'envie au final de voir avec les chaussures. Et Five Fingers, je me dis tiens pourquoi pas courir pieds nus un peu sur le tapis pour voir ce que ça donne. Au final je l'ai pas mal payé le lendemain. J'ai eu des belles courbatures au niveau des mollets, mais c'était assez intéressant de courir pieds nus au final. La sensation était assez différente par rapport à ce qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que les chaussures que j'ai sont pas forcément des minimalistes, loin de là même, donc c'est complètement différent. Mais c'est vrai que j'aime bien, comme on m'a déjà dit, j'aime pas le contact du sol. C'est ce qu'on m'a dit dernièrement par rapport au modèle de chaussures que j'ai pu choisir jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que non, le tapis de course, c'est un bon complément. Quand il y a des séances compliquées, enfin des phases compliquées comme avec le confinement, les périodes hivernales où certaines fois on n'a pas forcément la motive par rapport au froid et compagnie, ça peut être un bon compagnon de l'entraînement en complément.
Ouais. Et pour revenir sur l'histoire de courir pieds nus et tout, je comprends hein, que ça siffle. Ce matin, j'ai ressorti mes Five Fingers. Ça faisait quelques semaines que j'ai pas couru avec. Et malgré l'habitude, hein, et malgré le fait que je cours en drop zéro, en minimaliste, etc., eh ben, j'ai senti les mollets encore travailler encore différemment. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis des gens qui courent pieds nus, mais même en pleine nature. J'avais dans les contacts, il faudrait que je les réactive, mais des gens qui courent en sandales aussi. Et ça fait partie un petit peu de ce qui me pose question, hein, de dire mais comment est-ce qu'ils font, etc. Et je crois que un jour ou l'autre, il faudrait que j'arrive à inviter quelqu'un qui est un adepte hein, du barefoot, de tout ça, parce que c'est encore une autre pratique. Hein. C'est vrai que on rentre encore dans d'autres pratiques qui sont intéressantes et qui moi m'intéresse. Alors moi, courir pieds nus ce matin là sur mes chemins, c'était impossible vu les caillasses qu'il y avait. Mais j'aime bien sur la plage, voilà. Moi, nous, à la mer à Clermont, on n'a pas beaucoup ça. Hein, c'est pas le truc que j'ai le plus. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté minimaliste hein, de mes Five Fingers. Me plaît beaucoup de sentir les petits cailloux sous les pieds. C'est quand même un truc que j'apprécie. Même si ce matin, je dois l'avouer, hein, on enregistre, on est lundi aujourd'hui, j'ai marché sur un caillou et j'ai senti bien fort. Voilà, ça fait partie des petites anecdotes, les petites coulisses. Ça fait partie des choses comme ça. Quand on court avec moins en moins de semelles, ben, des fois, ça, on le sent un peu sous les pieds. Eh ben écoute, on a fait un bon petit tour, tu vois, on se fait 1h13, hein, donc on a fait une belle sortie longue, hein, un bon petit ravito, un dernier ravito de sortie longue. De toute façon, c'est un peu le principe, hein, c'est de dire, il y a tellement de choses à dire hein, sur les pratiques, même un coureur, finalement coureur débutant, hein, comme tu as pu te qualifier toi, hein, dire, même si tes temps sont impressionnants, finalement, tu as une expérience de course qui est très récente, hein. T'as oui. à peine plus d'un an de course. On voit déjà hein, tous les changements, tous les tests, s'inspirer sur les chaussures, se dire bah, finalement, je me rends compte que les chaussures, elles jouent un rôle. Hein. Elles sont, c'est pas un truc neutre, hein, la chaussure. Le choix de la chaussure n'est pas si facile que ça. La motivation, il y a plein d'éléments qui jouent. C'est super intéressant de voir aussi ton approche, de comment toi, tu vois ces compétitions virtuelles et comment tu places la compétition pour t'aider à progresser. Parce que voilà, ça fait partie aussi du carburant, hein, on pourrait dire. Hein, c'est un carburant pour toi. Pour dire un mot, où est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram, je vais te laisser rappeler le compte, même si je le mettrai en...
Instagram, c'est de souvenir, je crois que c'est mathieu.drubet. Ouais. J'ai simplifié parce qu'à l'époque j'avais mis plein de choses différentes et du coup j'ai simplifié. Maintenant c'est mathieu.drubet. Voilà.
Voilà,
c'est pas du tout compliqué pour me trouver. De toute façon, après j'ai de toute manière, je like souvent par rapport à tes publications et compagnie. Ou sinon, pour ceux qui je fais partie aussi du groupe KM42, le groupe Facebook et aussi du Hamster Running Club que tu as ouvert dernièrement.
Voilà. Et puis, de toute façon, je mettrai un lien vers... dans les notes de l'épisode, je mets un lien, et sur le site aussi, hein, je mettrai un lien vers ton compte, parce que comme ça, s'il y en a qui veulent venir te poser des questions, avoir un petit peu tes conseils, etc., ouais. Ben, ils pourront venir te voir directement. Ceux qui sont intéressés, ceux qui se retrouvent dans ta pratique, seront probablement intéressés. Je prédis que tu auras quelques questions quand même de gens qui te demanderont des conseils pour arriver à faire peut-être travailler sur des aspects que toi-même dont on a parlé dans cet épisode, et c'était ce qui était super intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de boire. Finalement, on a bu nos pétillantes hein, avec un peu de jus de citron pour ce dernier ravito. Merci beaucoup pour le temps passé, pour les conseils, pour cette vision que tu as de la course à pied, et à bientôt. Hein, sur Instagram, sur Strava, dans le groupe, sur l'Amster Running Club, et on suit les uns les autres un petit peu tes aventures, et on verra bah, finalement sur quelle course tu t'alignes, hein, sur où le chemin, où tes baskets vont t'amener.
Tout à fait, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, et ben, merci aussi, je te retourne ça, hein. Merci énormément pour l'invitation, parce que c'est vrai que je te suis depuis le début, entre guillemets. J'ai fait tous tes podcasts, j'ai écouté tous tes podcasts. Et c'est un réel plaisir de faire partie au final de la famille KM42 grâce à cet épisode. Donc un grand merci à toi et je suis ouvert à toutes les questions. Si des gens veulent me poser des questions, il n'y a aucun problème, je prendrai le temps d'y répondre.
Et ben voilà, c'est super sympa. Merci à toi, merci à tout le monde pour l'écoute de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis on aura bientôt d'autres invités pour un dernier ravito. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao Mathieu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.